Le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Le 10 octobre, c'est la journée mondiale pour l'abolition de la peine de mort. C'est le premier combat d'Amnesty International. Et c'est une peine qui est encore appliquée dans de nombreux pays, c'est pourquoi nous continuons de nous mobiliser. Mais comment est-ce que ça se passait en France avant l'abolition? Avant 1981, la peine capitale pouvait être exécutée selon deux modes. D'abord la fusillade et ensuite la décapitation. La guillotine est née avec la Révolution française. Au fil du temps, elle a été de moins en moins utilisée, les exécutions devenant de toute façon de plus en plus rares. La dernière décapitation a eu lieu le 10 septembre 1977. Jusqu'en 1981, le code pénal et le code de justice militaire ainsi que d'autres textes législatifs complémentaires dressaient une longue liste de crimes passibles de la peine de mort. On fusillait le condamné quand ça relevait du tribunal militaire et on appliquait la décapitation dans tous les autres cas, suivant l'article 12 du code pénal. Le décret du 20 mars 1792, toujours en vigueur en 1981, retenait la guillotine comme le seul moyen d'exécution, à deux exceptions près où la fusillade était prévue, donc c'est quand, par la suite de circonstances de guerre ou de difficultés de communication, les bois de justice ne pouvaient pas être amenés sur les lieux fixés pour l'exécution, ou alors quand la mort était prononcée pour des crimes contre la sûreté de l'État, selon l'article 13 du Code pénal. À partir de la Révolution française, la guillotine a été le symbole de la mise à mort légale des condamnés civils. En fait, sous l'Ancien Régime, les modes de mise à mort étaient beaucoup plus nombreux. Il y avait la potence, le bûcher, la roue, l'écartèlement, l'ébouillantage et la décapitation à l'épée. Cette manière, c'était réservé plutôt aux nobles. Et en plus, le bourreau n'était pas toujours très adroit et il infligeait souvent d'inutiles souffrances aux condamnés. Et c'est cette inégalité jusque dans la mort qui choquait les révolutionnaires. En octobre 1789, à l'appui d'un projet de réforme du système pénal, c'est le docteur Joseph Ignace Guillotin, député à l'Assemblée nationale constituante, qui prône l'égalité des peines, quel que soit le rang et l'état du coupable. Le 1er décembre 1789, il propose qu'en cas de peine de mort, je cite, « la décapitation fut le seul supplice adopté et qu'on chercha une machine qui pût être substituée à la main du bourreau ». Son projet d'article relatif à la peine de mort était ainsi rédigé. Le supplice sera le même, quelle que soit la nature du délit. Le criminel sera décapité. Il le sera par l'effet d'une simple mécanique. Deux ans plus tard, le code pénal de 1791 précisait que tout condamné à mort aura la tête tranchée, suivant une formule devenue célèbre. Ceci étant dit, c'est pas le docteur Guillotin qui est l'inventeur de la machine à décapiter, à proprement parler, même si ça porte effectivement son nom, c'est Antoine Louis qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie qui la conçoit. Les premiers essais de cette machine à décapiter ont lieu à l'hospice de Bicêtre, le 17 avril 1792, sur des moutons et sur trois cadavres. Et le résultat est jugé satisfaisant. Le nouveau châtiment devant être exemplaire, la machine est ensuite juchée sur une haute estrade ou en espèce d'échafaud. La première exécution utilisant la nouvelle machine intervint quelques jours après, le 25 avril 1792, sur la place de Grève à Paris. Nicolas Pelletier, repris de justice, condamné pour vol avec violence, fut guillotiné. Au fil du temps, les mœurs ont limité l'abondant usage de la guillotine permis par les codes. En 1825, 11 têtes tombaient pour un taux de criminalité passible de la peine de mort proche de 24 pour 1 million d'habitants. Et 150 ans plus tard, aucune exécution n'avait lieu pour un taux de criminalité qui était tombé à 10 pour 1 million d'habitants. La peine de mort est peu à peu abandonnée, finalement abolie en 1981 sous François Mitterrand. En effet, une mobilisation de longue haleine permet à la France d'abolir la peine de mort. Au XIXe siècle, deux camps s'opposent. Sous la Restauration, Joseph de Maistre, porte-parole du légitimisme et de l'ultra-royalisme, fait de la peine de mort la clé de voûte de la société. Dès 1815, certains ultra-royalistes au sein de la chambre introuvable tels que Grénédan et Trinquelague demandent le rétablissement de la pendaison, la guillotine leur paraissant un petit peu trop révolutionnaire et un petit peu trop liée au roi martyr Louis XVI. Et à l'opposé, on a François Guizot, dans son essai « De la peine de mort en matière de politique » en 1822, qui défend l'abolition de la peine de mort en matière politique. Et on a le juriste Charles Lucas qui prend des positions abolitionnistes dans son essai « Du système pénal et du système répressif en général, de la peine de mort en particulier ». En 1827. Et puis, on a évidemment le roman de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, paru anonymement en 1829, puis signé de son auteur en 1832, qui a également un très grand retentissement. C'est ensuite un décret d'Adolphe Crémieux du 25 novembre 1870 qui réforme l'usage de la guillotine, supprimant l'échafaud sur lequel elle était dressée pour un petit peu moins de spectacle. Il uniformise également la charge de bourreau en supprimant ceux de province, parce que jusqu'ici il en existait un par ressort de cour d'appel et un par département. Et maintenant il n'y en avait plus qu'un seul, exécuteur en chef pour tout le territoire national, assisté par 5 adjoints. Seul le bourreau de Corse restera en fonction jusqu'en 1875. L'Algérie, alors française, conservera une équipe d'exécuteurs qui lui sera propre jusqu'à l'indépendance du pays en 1962. Au début de la Troisième République, plusieurs propositions d'abolition sont déposées au Parlement, mais en vain. Sous le régime Vichy, Philippe Pétain refuse la grâce à une cinquantaine de condamnés de droit commun, dont 5 femmes, parmi lesquelles la première, Elisabeth Lamouly, empoisonneuse guillotinée en janvier 1941, et Marie-Louise Giraud, une avorteuse dont c'était le seul chef d'accusation, guillotinée, elle, en juillet 1943. Sans compter bien sûr les exécutions de résistants. Pendant l'épuration, les exécutions étaient très nombreuses. Sous la 4ème République, les exécutions se poursuivent également. En 1957, Albert Camus et Arthur Koestler publient leurs réflexions sur la peine capitale, qui tombe à ce moment-là dans une certaine indifférence. Le 4 juin 1960, durant la guerre d'Algérie, le ministre de la Justice, Edmond Michelet, signe une ordonnance qui modifie profondément le code pénal et le code de procédure pénale et qui rétablit la peine de mort pour raisons politiques, alors que celle-ci était abolie depuis 1848. Du coup, pendant la guerre d'Algérie, les tribunaux militaires d'Algérie ont prononcé près de 1500 peines capitales, dont 200 environ ont été exécutées. Le 11 mars 1963, l'exécution du lieutenant-colonel Bastien Thiry, responsable de l'attentat du Petit Clamart contre le général de Gaulle, fera de lui le dernier condamné à être mort fusillé. Il s'agit également de la dernière exécution politique. L'exécution par décollation souffrait 3 exceptions légales. Il y avait d'abord le crime contre la sûreté d'État, les sentences prononcées par les juridictions des forces armées, et enfin le cas où les voies de justice n'ont pas pu parvenir au lieu d'exécution. Et cette disposition, en fait, elle a été utilisée de juin 44 à janvier 47 pour exécuter tous les arrêts d'assises, sauf ceux de Paris. Chaque exécution, voire chaque réquisition de mort en France, ça posait le débat sur la peine de mort, surtout après la démission de De Gaulle. En 1969, la majorité des Français s'affirmait contre la peine de mort, il y avait eu mai 68 juste avant, et la tendance va finir par s'inverser avec l'augmentation de la criminalité et la très médiatisée prise d'otage de la maison centrale de Clairvaux. Elle va même amener Georges Pompidou à ne pas gracier Roger Bontemps, qui est reconnu comme complice de meurtre, non comme son auteur. La pratique voulait que le président il refusait la grâce qu'aux affaires médiatisées et en fait il graciait quasiment systématiquement dans tous les autres cas, y compris pour des affaires très sordides, de double meurtre, d'assassinat de personnes âgées, etc. Force est de constater que la France est reconnue pour être le dernier pays d'Europe centrale et de la communauté européenne à avoir procédé à une exécution. Les dirigeants de droite semblaient assez partagés, bien que majoritairement pour la peine de mort, et presque tous d'avis que tant qu'elle existait, elle devait être appliquée. Peu de temps avant son élection, il y avait quand même Valéry Giscard d'Estaing, qui était connu pour son aversion vis-à-vis de la peine de mort, qui déclarait, je cite, « Pour ce qui est de la peine de mort, je souhaite que la communauté nationale française et son législateur se saisissent le moment venu du problème ». Mais bon, finalement, Valéry Giscard d'Estaing et son gouvernement ne saisiront pas le problème. Le 25 mai 1981, François Mitterrand gracie Philippe Maurice, qui lui sera donc le dernier condamné à mort gracié. Le 26 août 1981, le Conseil des ministres approuve le projet de loi abolissant la peine de mort. Le 17 septembre 1981, Robert Badinter présente le projet de loi à l'Assemblée nationale et il est voté le lendemain par 369 voix pour et 113 voix contre. Le 25 mai 1981, François Mitterrand gracie donc Philip Morris. En 1981, donc, la peine de mort est définitivement abolie et la France, bien que le dernier pays, est finalement libre de toute peine de mort. Mais malheureusement, c'est pas le cas dans tous les pays du monde. Évidemment, il y a énormément de pays encore où il existe la peine de mort, notamment en Arabie Saoudite, en Iran, en Afghanistan, au Brunei, au Qatar, au Yémen. Et je cite pas ces pays au hasard parce que ce sont des pays qui pratiquent la peine de mort contre les personnes homosexuelles. Il se trouve que récemment, en France, il y a eu des nouvelles lois qui agissent pour la liberté des personnes homosexuelles et des personnes transgenres. Et je veux parler de la loi de janvier 2022 sur les thérapies de conversion. En effet, en France, ces thérapies ont été interdites il y a peu de temps. Alors, qu'est-ce que ça implique exactement ? Tout d'abord, les thérapies de conversion, c'est le nom qu'on donne à une pratique médicale qui consiste à soigner l'homosexualité ou la transidentité, c'est-à-dire faire changer leur orientation sexuelle ou leur identité de genre à des gens. Et même si ça fait une trentaine d'années que l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie en France et que la transidentité n'est plus considérée comme une maladie depuis 2010, les thérapies de conversion restaient complètement absentes du code pénal français et donc elles existaient encore. Une thérapie de conversion, ça implique plusieurs modes d'action. Soit on va donner des médicaments, des hormones, des stéroïdes, soit c'est des thérapies psychologiques, donc essayer de comprendre pourquoi on est devenu malade, soit quelque chose de plus spirituel, notamment avec la pratique de l'abstinence ou de prière. Le but, c'est donc de modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. À la base, c'est né aux États-Unis dans les années 70, et puis ça s'est répandu en Europe, notamment en France, où ça s'est fait de façon plus ou moins cachée, dans le sens où c'est souvent sous couvert de groupes de paroles ou de séminaires. Par exemple, on a l'association Torrent de Vie, qui a été filmée cet été en caméra cachée par BFM, qui propose des prières, des échanges et même des accolades visant à combler le manque affectif supposé des personnes homosexuelles dans le but de les soigner. En 2020, un expert a qualifié les thérapies de conversion d'actes de torture dans un rapport remis au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. En effet, on sait que ces thérapies peuvent avoir des effets très néfastes, notamment des séquelles psychologiques et physiques qui peuvent même mener à la dépression, voire au suicide. Alors avant la loi de janvier 2022 en France, on pouvait quand même plus ou moins se défendre au moyen de différents motifs de saisie de justice, comme le harcèlement sexuel ou moral, les violences physiques et psychologiques, les pratiques commerciales frauduleuses, l'escroquerie, l'exercice illégal de la médecine ou encore l'abus de faiblesse. Mais la proposition de loi de la députée de l'Allier Laurence Vankenbrock de LR permet désormais de saisir la justice pour ce motif propre qui est à présent inscrit dans le code pénal français. L'interdiction est explicite, je cite, « Toute pratique, comportement ou propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre vraie ou supposée d'une personne ayant pour conséquence une altération de sa santé physique ou mentale est punie par la loi. » Selon cette loi, les sanctions peuvent aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, voire 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende s'il y a un mineur qui est impliqué, ou alors si l'auteur a un ascendant sur sa victime, ou encore si les auteurs sont multiples, ou que c'est une thérapie qui est sur un support de communication numérique. Cela dit, c'est pas parce que la loi cible mieux à présent ce phénomène particulier que ça va rendre plus facile les condamnations, parce que bien souvent, l'intention même de ces pratiques, à savoir soigner l'homosexualité, est bien entendu dissimulée. Bérangère Couillard, ministre chargée de la lutte contre les discriminations, déclare que, je cite, « La difficulté pour nous, c'est de lutter contre les communications de ces pratiques. » Ils vont parler d'accompagnement spirituel, de difficultés personnelles, etc. C'est pour cela qu'on a besoin de ces images, de témoignages et que les victimes portent plainte. Néanmoins, ce texte pourrait être prochainement appliqué car Bérangère Couillard a annoncé le 30 août qu'elle voulait saisir le procureur de la République concernant Torrent de Vie. Une enquête préliminaire a depuis été ouverte à l'encontre de cette association qui, par ailleurs, avait déjà été mentionnée dans le rapport d'activité 2021 de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Miviludes. Il faut également savoir que d'autres pays, notamment en Europe, ont déjà des lois visant à interdire explicitement les thérapies de conversion. En 2016, Malte a pris en premier des mesures législatives, puis l'Allemagne en 2020, la Grèce en mai 2022, juste après la France. L'Albanie a également décidé en 2020 d'interdire aux psychologues de pratiquer ce genre de thérapie. En 2023, d'autres pays comme l'Espagne, le Portugal, Chypre et l'Islande ont suivi. Beaucoup d'autres États envisagent une telle interdiction sans que les propositions de loi n'aboutissent encore, comme la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, la Norvège ou encore les Pays-Bas. Et en dehors de l'Europe, le premier pays à avoir interdit toutes les thérapies de conversion est le Brésil en 1999. On suivit ensuite les Samoa qui ont retiré l'homosexualité et la transidentité des listes des pathologies, interdisant de facto toute thérapie qui viserait à les considérer en tant que pathologie. En 2010, les îles Fidji appliquent la même stratégie et de même pour Taïwan en 2018. L'Argentine et l'Uruguay ont proscrit ces pratiques en 2017 et l'Équateur 3 ans auparavant. Mais comme je le disais, il y a de nombreux pays où l'homosexualité n'est pas seulement un délit, mais un crime passible de la peine de mort, comme l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, le Brunei, l'Iran, le Qatar et le Yémen. Ces pays condamnent fermement l'homosexualité masculine ou féminine, ainsi que la transidentité, et les personnes qui souffrent ou qui sont victimes de la justice de leur pays ont besoin de signatures et de soutien de la part d'associations comme Amnesty International, et je vous invite à vous renseigner sur notre site pour leur apporter toute l'aide dont ils ont besoin, une mobilisation et des signatures pour essayer de faire changer la législation de ces pays, ne serait-ce que pour les protéger et pour ralentir les effets de la justice et notamment ralentir les condamnations à mort. Moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt sur Radio FM+.